terre, pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Bienvenue chez vous. C'est le titre de cette nouvelle émission qui va parler de notre vie avec les étrangers qui habitent en permanence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. PACA pour les intimes. Plus particulièrement, cette émission parlera de ce processus qui fait que, au fil du temps, celui ou celle qui est arrivé d'ailleurs devient des nôtres. Et ses enfants vont devenir des enfants du pays. C'est cela qu'on appelle l'intégration des étrangers par la société locale, et c'est tout simplement l'histoire de l'humanité. C'est une très vieille histoire, elle a commencé il y a plusieurs centaines de milliers d'années, lorsque nos ancêtres, qui s'appelaient alors Monsieur et Madame Homo Erectus, se sont mis debout sur leurs jambes, ce qui leur a permis de regarder l'horizon et leur a mis en tête l'idée qu'il fallait aller voir ce qu'il y avait derrière cette ligne d'horizon. Et bien depuis ce temps-là, il y a des humains qui arrivent sur des territoires qui sont déjà occupés par d'autres humains. Alors la rencontre n'est jamais simple. Et il est très rare, voire rarissime, que la cohabitation s'installe spontanément dans l'harmonie. Pourtant, il existe aussi, de tout temps, il existait des femmes et des hommes qui se sont attachés à rendre les choses plus faciles, qui ont essayé de développer l'hospitalité, et qui ont préconisé le partage. Et bien aujourd'hui, dans la région PACA, ces femmes et ces hommes existent, ils sont nombreux, et Bienvenue chez vous sera consacré à les découvrir et à découvrir leurs actions. Ainsi, chaque numéro mensuel de l'émission abordera une facette différente de ce processus d'intégration, avec des reportages, des invités, des acteurs ou témoins de ces actions, pour faire en sorte que le plus vite possible, les étrangers montent avec nous sur notre bateau et fassent le voyage avec nous. L'émission comportera aussi une rubrique de questions-réponses des auditeurs qui seront plutôt orientées sur les aspects juridiques. Et enfin, une chronique qui sera ou pas en relation avec l'actualité. Bienvenue chez vous, c'est le fruit d'une collaboration entre Radio Grenouille, Radio Zinzine et l'association Espace Accueil aux étrangers. Mais c'est une expérience, alors ça veut dire que nous avons besoin de vos réactions, de vos avis, de vos conseils. Et pour ce faire, pour les recueillir, nous avons ouvert une messagerie téléphonique à Espace Accueil aux étrangers, le numéro 04 91 64 43 16.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon...
Alors le premier numéro de Bienvenue chez vous va être consacré au Code des Traces. Le Code des Traces, c'est le collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture. Il a été constitué au début de l'année 2002 par un ensemble de personnes qui avaient en commun une indignation profonde, très profonde, devant la situation qui était faite aux ouvriers agricoles étrangers et en particulier dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur le site web du Code des Traces, le Code des Traces a un site, www.codetraces.org, on peut lire entre autres l'histoire détaillée de ce collectif et on trouve cette phrase qui résume parfaitement les motifs des fondateurs. Je la lis. Il est en effet particulièrement intolérable que ces travailleurs, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils sont la clé de voûte de l'agriculture compétitive, soient souvent maltraités par leurs employeurs, floués par les institutions qui devraient les protéger et totalement ignorés par la population rurale qui leur doit sa survie. Alors les membres du CONDETRAS sont la plupart du temps et presque toujours des gens qui militent aussi dans d'autres organismes, impliqués dans des domaines très divers. Le syndicalisme, qu'il soit ouvrier, salarié ou paysan, la défense et le développement des droits de l'homme, la solidarité internationale, et plus généralement les initiatives citoyennes, que ce soit en France ou en Europe. Le CONDETRAS s'est doté d'une charte qui comprend trois volets. Il y a une analyse au départ de la surexploitation des travailleurs de l'agriculture intensive. On y trouve un exposé des motifs et des revendications du collectif. Et enfin, l'exposé de sa stratégie. Et cette stratégie comporte finalement trois lignes principales. D'abord, des actions pour dénoncer la situation faite aux ouvriers étrangers et recueillir des témoignages publics. Ensuite, la participation et l'organisation même de débats sur tous les facteurs qui sont à l'origine de cette situation, que ce soit les politiques migratoires, l'industrialisation de l'agriculture ou le commerce international des produits agricoles. Et enfin, un axe de combat juridique consistant à défendre les travailleurs quand ils veulent en appeler aux tribunaux et à les aider à organiser leur défense. Eh bien, c'est à ce dernier volet que nous allons consacrer le début de cette émission en écoutant un reportage réalisé par Pascal Messaoudi. Et ensuite, nous discuterons avec nos invités auxquels, naturellement, Bienvenue chez vous souhaite la bienvenue. Donc, avec nous présents sur le plateau, Denis Nathanelic, qui est membre de l'association Nafadji Pays d'Arles, donc c'est une association de solidarité internationale, mais qui est évidemment membre du CONDETRAS, et Peter Gerber, qui est membre de la Confédération Paysanne. Donc, ils nous présenteront plus directement les activités du CONDETRAS, après que nous ayons entendu le reportage de Pascal.
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Ils créent donc l'Office national de l'immigration.
Bon, moi j'en ai trois. Philippe, t'en as un, quatre. Juliette, t'en as six. Samantha,
initiative prématurée, en fait le baby boom assurera le rajeunissement de la population. De plus, les besoins en main-d'œuvre n'apparaîtront qu'au milieu des années 50. Mais à cette époque, la guerre d'Algérie va retenir de nombreux jeunes sous les drapeaux. La troisième grande vague d'immigration n'en aura que plus d'ampleur.
Ah ben voilà, il y a Marlène. Donc 15, 16, 17, 18.
Marlène Yushchenko, avocate à Marseille.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça fait un petit moment déjà, un collectif s'est monté, un collectif sur la défense des travailleurs étrangers agricoles, saisonniers. Donc ça, c'était en 2000. Et il y a peut-être 4-5 mois de ça, ils ont saisi le groupe des avocats de Marseille de manière à pouvoir déposer des demandes pour les étrangers saisonniers travaillant dans l'agriculture. Des demandes qui consistent à dire ces personnes sont là depuis 20 voire 30 ans pour certains. On estime qu'ils ont droit à une carte mention salarié et non pas à la carte, à un simple visa de 6 mois qui leur permet de rester en France 6 mois par an, souvent 8, et ensuite de retourner au pays, donc faire valoir des droits acquis. Je pense qu'actuellement, il doit y avoir 70 dossiers de déposés. Donc, on a eu une première série de belles victoires puisqu'on a fait deux recours. Un recours en référé, donc qui est jugé en urgence, et un recours au fond pour lequel on n'a pas encore la décision. Donc, par rapport au recours en référé, on a obtenu gain de cause dans la mesure où la décision oblige la préfecture à délivrer des autorisations provisoires de séjour valant droit au travail pendant toute la procédure jusqu'à ce qu'il doit statuer sur le fond. Donc elle a pu considérer qu'effectivement il y avait un doute sérieux sur la légalité de la décision, à savoir la demande initiale tendait à dire en fait on est des vrais salariés parce qu'on bosse là 8 mois par an depuis 20-30 ans, donc on veut une carte salariée.
J'ai l'impression qu'on approche de la fin là maintenant. Enfin, j'espère en tout cas parce qu'on commence aussi à fatiguer.
Hervé Gouillet, juriste pour le Code des Traces.
On peut rappeler les grandes étapes.
Bah, les grandes étapes, ça commence. Toute l'histoire des travailleurs saisonniers commence avec Monsieur Balois, Aïe Balois, qui a été un peu la figure emblématique de ce combat pour les droits, pour la dignité. Pour l'histoire, c'est un travailleur saisonnier qui a travaillé depuis 23 ans sur la même exploitation agricole. Le patron vend, il sait qu'il ne sera pas repris l'année suivante et il décide de rester en France. Bon, son patron, l'ayant correctement exploité, il se tourne vers les prud'hommes et puis il fait une demande de carte de séjour. Et là, on creuse la question par rapport à un dossier tout à fait exceptionnel, 23 ans, 8 mois par an en France, dans un travail qui n'est pas saisonnier en réalité. Voilà. Et on regarde dans la jurisprudence, jurisprudence très défavorable pour les travailleurs saisonniers parce que la question s'est déjà posée de leur droit au séjour, mais pas dans les conditions où nous on l'a abordé, à savoir, parce que c'est pas tous les saisonniers, c'est une partie d'entre eux, et c'est ceux qui travaillaient 8 mois par an en France. Donc on a considéré, on a essayé de démontrer en droit que c'était des travailleurs à titre permanent, et que donc ils devaient être considérés comme tels, et donc de la stabilité du séjour, au regard de leur situation passée. Et le tribunal administratif nous a suivis dans ce raisonnement-là.
L'immigration a permis aux ouvriers français de se hisser dans l'échelle sociale en abandonnant peu à peu les travaux pénibles et mal payés.
Samantha Bonamy, avocat baron de Marseille. On travaille en partenariat sur ces dossiers-là, voilà. Et là, on fait notre troisième dépôt collectif.
Ouais. À votre actif, vous en êtes à combien de dossiers ?
Sept travailleurs saisonniers dont je m'occupe. Voilà.
Aujourd'hui, vous en avez posé combien ?
Quatre. Oui, oui. Quatre, dont trois dossiers au fond et un seul dossier en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence.
Ces dossiers que vous déposez, là, ne constituent en aucun cas un risque pour le travailleur de perdre
non,
sa place
cas, c'est des risques qui sont très mesurés et qui sont vus avec les gens.
Et comment vous les mesurez, justement, et comment vous faites face?
On discute, on se réunit beaucoup entre nous, on se réunit aussi avec les travailleurs, on fait parfois des entretiens avec plusieurs travailleurs où on explique, on discute avec eux, on discute de tous les tenants et les aboutissants, donc ils sont parfaitement au courant de tout ce qui peut se passer, puis on prend des risques qui sont très limités, on ne mettrait jamais quoi que ce soit qui puisse leur nuire. On fait quand même très attention. Ouais.
Malgré certaines directives qui demandent du zèle aux employés de la préfecture.
Oui, malgré ça, mais ça, c'est pas grave, tant pis, on fait quand même en sorte de respecter les intérêts des travailleurs, peu importe ce que ça coûte à la préfecture.
Rester dans le droit.
Exactement, oui, oui. Ouais.
Merci.
Je vous en prie.
Au mois de janvier, la cour d'appel a annulé la décision qui était favorable à Balois. Donc on s'est retrouvé dans une situation juridique très difficile et en même temps on était tout à fait déterminés à poser la question et à emmener tout le monde à l'abattoir parce que les juges qui ont donné tort à Balois en cour d'appel ont donné une décision qui est vraiment pourrie et empreinte de considération politique qui traduit, à mon avis, l'esprit de droite de ce juge. Je le dis aussi franchement que ça. Parce que, non seulement, il nie l'erreur dans la qualification juridique des faits, il nie carrément le détournement de la réglementation par la préfecture, et il va même jusqu'à dire que s'il devait le reconnaître, ce serait pour en tirer les conclusions inverses, c'est-à-dire que M. Balois n'aurait le droit à rien parce que son séjour passé aurait été complètement illégal. Donc on ne s'est pas laissé décourager et puis trois semaines après cette décision négative de la Cour d'appel, on a déposé nos 23 dossiers au tribunal administratif et on a gagné les 23.
Quelle est la stratégie du gouvernement là-dessus du coup maintenant pour faire face à votre attaque entre guillemets?
Un peu wait and see quoi. C'est,
pour l'instant,
Alors, ce que tente le ministère de l'immigration, c'est de les faire entrer dans le même dispositif que les sans-papiers de Paris qui sont en grève, donc en exigeant d'eux qu'ils produisent un contrat de travail.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas du tout le même contrat de travail.
Ah oui, c'est pas des sans-papiers, ils sont en situation régulière, voilà, autorisés à travailler 8 mois par an. Et leurs patrons sont, pour la plupart, toujours pas prêts à les sortir de ce statut, parce qu'eux-mêmes en tiraient beaucoup d'avantages. Donc ils n'ont pas compris l'intérêt, sans compter qu'au passage, l'État demande à l'employeur qui ferait un contrat de travail dans ces conditions-là, de payer une redevance qui se monte à presque 900 euros. C'est quand même pas rien. Alors qu'ils n'ont rien à payer, puisque cette redevance a été payée chaque année pour chaque introduction depuis 10, 15, 20, 30, certains 35 ans. Donc cette redevance a été largement payée par les employeurs depuis très très longtemps et de multiples fois.
À cette même époque arrivent les Africains. Ils arrivent seuls. Ils rentrent chez eux dès qu'une autre personne de leur village les remplace. Logés dans des foyers insalubres, ils se présentent chaque matin aux portes des usines. Exemple d'un entretien d'embauche de l'époque.
Tu n'as jamais travaillé en usine ?
Jamais de l'usine ?
Jamais ?
Oui, l'usine n'est pas Afrique.
Il n'y a pas d'usine en Afrique ?
Il n'y a pas d'usine en Afrique.
Tu es cultivateur là-bas ? Oui, tu es cultivateur aussi.
Cultivateur en Afrique.
Tu auras le numéro 487. Dis-le. 487.
487.
T'as compris ?
Oui.
Alors, moi, demandé à toi en taureau, toi tu dis boulot Bocard,
oui.
Numéro 487.
Oui.
Est-ce que ça va changer le monde agricole ici en PACA ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait du changement ?
Mais non, parce qu'ils tournent déjà avec des Marocains. Donc il y a 4000 saisonniers, mais il y a 16000 personnes qui travaillent dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça veut dire qu'il y a 12000 ouvriers agricoles qui sont soit français, soit qui ont une carte de séjour. En pratique, l'immense majorité d'entre eux sont marocains. Et ce qui va se passer, c'est que les saisonniers qui vont changer de statut, c'est leur seul métier. C'est quand même des gens, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont ouvriers, ils sont ouvriers, point barre. Quoi.
Ils vont rester là, mais ils seront peut-être un tout petit peu moins malléables qu'avant.
Exactement, ils pourront peut-être changer d'employeur, ils pourront peut-être
syndiquer, pourquoi pas.
Oui, ou s'ils réclament un traitement minimum correct, comme le paiement des heures supplémentaires ou la prime d'ancienneté, le patron, s'il refuse, il perdra son salarié, ou peut-être qu'il aura plus facilement un procès au prud'homme. C'est ça qui va changer.
Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 Glorieuses. Juillet 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing ferme les frontières. Cette mesure est exceptionnelle dans l'histoire de l'immigration.
Ils vont pas durer au premier accident du travail, à la fermeture au premier coup de gueule avec le patron, à la fermeture d'exploitation agricole ou quand ils ont atteint la limite d'âge à 50 ou 55 ans, quoi.
Voilà, nous venons d'entendre un reportage pris sur le vif, on pourrait dire sur les marches du palais, puisqu'il s'agissait, vous avez peut-être entendu les coups des tampons des greffiers derrière, d'enregistrer une vingtaine de recours au tribunal administratif. Alors Denis, est-ce que tu pourrais nous resituer cet événement-là dans la philosophie et le sens général de l'opération Régulomi elle-même et cette opération dans le combat général du Code des Traces aux côtés des travailleurs étrangers?
Oui, bien sûr. Je pense que cet événement, c'est plus qu'un événement, c'est quelque chose de primordial et de majeur dans cet accès aux droits des étrangers saisonniers dans l'agriculture, parce que depuis 5-6 ans que le Code des Traces accompagne dans le combat juridique individuel certaines personnes, c'est la première fois qu'on accompagne des personnes qui sont toujours en situation de contrat. Jusque-là, on accompagnait des gens qui étaient en rupture de droit, parce qu'ils avaient été sortis du mécanisme de reconduction des contrats de chaque année, parce qu'ils avaient eu un accident de travail, parce qu'ils avaient eu un conflit. Alors que là, on est dans une phase massive. On a quand même 200 à 250 demandes de ces saisonniers. Une demande massive de changement de statut, de reconnaissance d'une fonction qu'ils ont depuis des années, c'est-à-dire d'ouvriers permanents et non pas de travailleurs saisonniers. Et donc cet accompagnement-là qui rentre complètement dans une des trois axes que Louis, tout à l'heure, tu as donné sur la charte du Code des Traces, c'est l'accompagnement juridique et la reconnaissance du droit. de ces personnes à être non pas des ouvriers précaires à perpétuité, comme le disait un journaliste de Libération en 99 dans le premier article où on a commencé à parler de ces saisonniers, mais des ouvriers reconnus par un gouvernement qui aujourd'hui prône l'immigration choisie, l'immigration de travail, et qui refuse de donner un titre de séjour à ces personnes.
Et en particulier, si je comprends bien, là on a aussi quelque chose qui est peut-être pas ordinaire, c'est une coopération avec une équipe d'avocats qui se trouve peut-être aux côtés du Codetras. Tu peux expliquer le...
Oui, alors peut-être que je pense aussi que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que le plus gros des soucis pour ces populations qui sont marginalisées, qui sont isolées, c'est l'accès à la justice. Et c'est vrai que aujourd'hui, les membres du Codetras, qui sont des syndicalistes ou des bénévoles d'associations, sont à proximité de ce public et ont pu servir de relais avec le monde de la justice et avec un groupe d'avocats qui sont pour la plupart des avocats militants formés sur le droit des étrangers et qui ont accepté cette bataille juridique et qui ont accepté ce travail de partenariat entre le collectif et les usagers étrangers qui, eux, sont complètement démunis. Et je pense que c'est primordial pour ce public parce que seul... Il n'aurait pas pu accéder à cet accompagnement juridique de qualité parce que c'est un accompagnement avec des avocats qui sont très professionnels sur la question du droit des étrangers, ce qui est rarement le cas malheureusement dans des accompagnements pour ce public. Et on a des résultats aussi par rapport à ça.
Bon, alors, on peut espérer que ce processus, qui, si j'ai bien compris, est très lent, il a dû commencer il y a plus d'un an déjà, on peut espérer, enfin, on l'espère pour vous, pour le Codetras, qu'il va être victorieux, et si possible, rapidement. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer fondamentalement? Puisque notre émission parle de l'intégration des étrangers, est-ce que ça va faire en sorte qu'ils ne soient plus, comme si j'ai bien compris, ils le sont à l'heure actuelle, enfermés dans un véritable ghetto, dans la campagne des Bouches-du-Rhône en particulier? Est-ce qu'on va les respecter et témoigner le fait que désormais il faut vraiment compter sur eux comme des gens qui sont là pour faire fonctionner ce qui reste du système agricole? Est-ce que tu crois que ça va avoir un écho, je dirais, de sympathie à leur égard ou au contraire d'antipathie, comme vis-à-vis d'esclaves qui se révoltent?
Je pense qu'il n'y aura pas d'écho antipathique parce que c'est des gens qui aujourd'hui et depuis 20 ou 30 ans font fonctionner l'agriculture provençale. Et cette démarche les fait exister pour la première fois. Et je pense que déjà pour eux, d'avoir relevé la tête et d'avoir osé s'exprimer, c'est déjà une victoire. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on concrétise. Nous, on y croit hein, parce qu'il y a un droit... formel là-dessus. On a aussi saisi, et une partie de ces ouvriers ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALDE, et on attend dans les semaines à venir une décision de la HALDE, parce qu'on considère que ces personnes sont discriminées dans leur situation de vie en France, parce qu'ils n'ont aucun droit, comme peuvent avoir les étrangers qui ont une carte de séjour. Ils n'ont pas le droit de vivre en famille, ils n'ont pas le droit aux prestations chômage alors qu'ils cotisent. Enfin, je ne vais pas développer tout ça, vous regarderez sur le site du Codetras. Mais voilà, donc je pense que on va y arriver et on de toute façon, on ne lâchera pas. Et on a aussi les médias aujourd'hui qui ont pris en compte aussi cette dimension-là et qui nous soutiennent aussi. Donc je pense que quelque part, on est sur le bon chemin.
Bon, merci Denis. On va faire une petite pause musicale et après nous écouterons un nouveau reportage. Bien, nous reprenons la cours de notre première émission de Bienvenue chez vous, qui concerne le collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture. Et maintenant, nous allons écouter un témoignage. C'est celui de Hassan, un ouvrier agricole, qui parle des conditions de son travail et surtout des circonstances de l'accident de travail qui a mis fin à sa carrière. Ce témoignage est extrait d'un reportage qui a été réalisé en 2004 par Marion Urban dans le cadre de l'émission Méditerranée, une émission qui était diffusée par Radio France Internationale.
Hassan, vous êtes arrivé en quelle année en France ?
1994.
Quelles étaient vos conditions de travail ?
Il commençait à 6 heures à travailler. Il s'arrêtait à midi, il reprenait à 2 heures, jusqu'à 10 heures et demie, ça dépend, 11 heures.
Vous faisiez quoi exactement comme travail et pour quel salaire ?
قلت لك شنو هي الخدمه ديالك شنو كنتي كتخدم وشحال كتشد
كنا كنخدموا كنقلعوا الخوخ وكنخدموا 14 ساعه 12 ونص 11 كل خطره وفوقاش حتى المهم تتقاد له الخدمه ما تبقاش في الجنان
il travaillait 12 heures des fois 13 à 14 heures il travaille tant qu'il y a du travail il travaille hein, même s'il fait nuit de toute façon quand il fait nuit ils peuvent pas ramasser mais ils ramassent toutes les caisses ils chargent les caisses et tout ça donc pour le SMIC il était payé et il leur mettait sur le bulletin de salaire 20 heures supplémentaires mais les 20 heures supplémentaires ils n'étaient pas payés en vraie heure de supplémentaire ils les payaient comme les autres de la main à la main ils étaient payés
ce n'était pas noté
non.
Et quand vous dites le SMIC, ça correspondait à peu près, le salaire minimum correspondait à peu près à combien par mois ?
SMIC, je ne sais pas, c'est quand même 120 ou quelque chose.
6000 et quelques.
Hassan, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ?
Je suis parti. Je suis parti. في العشية جينا قال لك تخدموا، احنا ما بغيناش نخدموا، فرصة علينا نخدموا. ملي مشينا نخدموا الجنان كان فازق والبراود ديال الحديد قال لي سالت بيا البرويطة وطاح عليا العرش.
Ils voulaient pas travailler le matin, il pleuvait parce que quand il pleut, ils sont, ça glisse, les escabeaux où ils montent, ça glisse. Donc ils ont pas voulu travailler le matin et l'après-midi, il leur a dit il faut absolument travailler. Donc ils sont allés travailler. Il est monté sur l'escabeau de 5 marches et ben il est tombé avec une grosse branche qui lui est tombée dessus. Il est tombé avec. Donc il s'est cassé la hanche là. Et puis il a eu un coup à l'œil, il a eu l'épaule, le genou, tout ça, il a eu. Et donc, il est allé à l'hôpital. Après, quand il est allé à l'hôpital, il est resté là-bas de 2 à 3 jours. Et après, ben, le médecin, il a dit, il faut l'opérer. Donc, eux, ils sont venus le voir. Le patron, il est venu le voir. Et il lui a dit, ben voilà, cette femme, elle travaille chez nous. Ça, c'est son mari. Donc, on voulait savoir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Il lui a dit, il faut l'opérer. Le lendemain, le médecin, il lui avait donné le banc de sortie. Il lui a dit qu'il fallait partir, qu'il n'avait rien du tout. Je lui ai dit, attendez, là, hier, vous avez dit... Devant 2 personnes qui sont venues, c'est mon patron et son fils qui sont venus le voir. Et vous avez dit qu'il fallait l'opérer. Aujourd'hui, vous me dites non. Il m'a dit, ben, vous ne faites pas confiance. Et ben, j'ai dit non. Si un jour vous me dites oui, un jour vous me dites non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là.
Votre patron et son fils ont fait pression sur le médecin pour pouvoir rendre un jugement comme quoi il n'avait pas besoin d'être opéré.
Oui, oui, ils le font toujours. Hein. Il y en a beaucoup des accidents de travail, il n'y a pas que lui. Puis les accidents de travail, ils vont à l'hôpital de Salon. Là, ils sont sûrs que le lendemain, ils sont dehors. Il y en a beaucoup qui ont été dehors et qui n'ont été même pas déclarés en accident de travail. Là, il a déclaré l'accident de travail parce que moi, je me suis attrapée avec eux. Et puis, il était obligé, il avait peur parce que moi, il me craignait beaucoup parce que je travaillais à la maison, que je n'étais pas déclarée employée de maison. Donc, il craignait beaucoup de problèmes.
Combien de contrats saisonniers a votre patron chaque année ?
À peu près 120-130 contrats, quoi, au mi. Mais sans compter les personnes qui prennent pour l'emballage. Ça, c'est rien que pour les champs.
Voilà. Alors, ce témoignage de Hassan, qui bénéficie de l'assistance de Naïma, son épouse, comme on l'a compris, elle-même embauchée dans l'agriculture, nous parle d'un accident du travail qui, en fait, a eu lieu en août 2000. Et il est intéressant de donner l'épilogue de cette histoire. En décembre 2000, c'est-à-dire quelques mois après l'accident du travail, Naïma et Hassan étaient virés comme des malpropres de l'exploitation où ils se trouvaient et se sont retrouvés sans papier, sans argent, sans logement. Alors, ils se sont battus. Ils estimaient être victimes d'injustice et ils se sont battus. Et ce combat, à lui seul, pourrait faire l'objet d'une émission entière. Alors on va en donner simplement les étapes essentielles, disons les étapes victorieuses. En 2004, Hassan a obtenu une carte de résident de 10 ans au titre d'accidenté du travail dont le taux d'invalidité est supérieur à 20%. À la fin de la même année, donc fin 2004, Naïma a obtenu une carte de séjour temporaire dite vie privée et familiale au titre d'épouse de Hassan. En 2006, Naïma et Hassan obtenaient la nationalité française et recevaient leur carte d'identité en novembre 2006. Et bien depuis cette date, les Français comptent 2 nouveaux compatriotes qui sont à bien des égards exemplaires. Voilà. Alors, Peter, tu es membre du Codétras et comme on l'a dit au début, tu es aussi membre de la Confédération Paysanne. Ce reportage met en cause de façon relativement claire un employeur. Quel commentaire tout ça t'inspire-t-il ?
Mais déjà, il faut dire que cette histoire de Naïma et Hassan qui finit presque d'une manière idyllique est malheureusement une exception. Je pense que ça arrivait uniquement parce qu'il y avait des gens derrière, entre autres Cours des Traces, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait une vraie solidarité. Sinon, des accidents de travail, des injustices finissent que les gens ils partent au Maroc, la plupart des fois. Et alors, comme membre de la Confédération Paysanne, je voudrais déjà d'abord dire une chose que... Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais le contexte, c'est quand même que les Bouches-du-Rhône, c'est un département extrêmement industrialisé au niveau de l'agriculture, avec beaucoup d'ouvriers agricoles, avec une concentration de serres et aussi arboriculture. avec une concentration de fric qui investissent là-dedans, qui fait que les autorités et les responsables paysannes, là je ne veux quand même pas la Confédération paysanne, on est un petit syndicat, on représente 20% des paysannes, des paysans, mais la FEDE, alors la Grande Fédération des Exploitations Agricoles au niveau national et départemental, elle est très très bien au courant de tout ce qui se passe. Elle a toujours dit au mieux, elle a dit il s'agit de brebis galeuses quand il est arrivé une histoire comme ça. Ça c'est, mais en réalité c'est malheureusement pas des brebis galeuses. On peut pas dire que tout le monde est un monstre quand il travaille la terre dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas vrai. Mais il y avait quand même une majorité qui a profité de la situation de ces main-d'œuvre corvéable où on pouvait tout demander, qu'on pouvait faire travailler très longtemps, et ils ont profité de ces avantages depuis longtemps, et il faut dire même aujourd'hui on n'est pas encore dans une situation tellement glorieuse dans le sens qu'on sait qu'il y a des abus comme les bakchiches où les paysans sont payés et les intermédiaires également par des gens qui reçoivent un premier contrat. Et tout ça, c'est pour l'instant, ça on n'arrive pas à aller jusqu'au tribunal parce que les gens sont pas prêts à témoigner.
Tu dis que les ouvriers payent pour avoir un contrat.
Les ouvriers payent pour avoir un primo contrat légal OMI, qui s'appelle plus OMI maintenant, mais et avoir un contrat saisonnier, ils payent une somme. Nous, on a entendu des chiffres de 5 000, de 10 000. On pourrait parler devant le tribunal parce qu'ils seront pas prêts à témoigner, mais on sait que ça existe. On connaît des gens qui nous ont témoigné ça devant les yeux, dans les yeux. Et une partie va directement dans les poches du paysan et une partie va dans les poches du Marocain intermédiaire qui a arrangé le coup.
Mais alors, les sommes auxquelles tu fais référence sont énormes par rapport à ce que sera le revenu du travailleur. En fait, si je comprends bien, en faisant un calcul rapide, il va payer, pour avoir droit à un premier contrat, un montant qui représente à peu près la même chose que ce qu'il va gagner par son travail pendant les 6 mois ou 8 mois qui vont suivre. C'est bien ça ?
Tout à fait. Ça s'appelle un investissement à long terme, parce qu'il spécule, qu'il peut bosser, c'est pas une année, mais qu'il peut bosser pendant 10, 15, 20 ans. Et là, les années suivantes, c'est pas complètement gratuit, mais il y a moins de choses qui se passent. Par contre, c'est des gens qui sont quand même toujours sous la pression. S'ils travaillent pas bien, s'ils disent quelque chose, ils peuvent être virés parce que le paysan, il trouve tout à fait d'autres ouvriers. Juste un détail, je vais pas dire le nom, mais le patron de Naïma, cette année encore, il a reçu 30 nouveaux primo contrat OMI, des gens qui vont de nouveau travailler chez ce patron, pas dans des meilleures conditions que Hassan et Naïma qui ont pu travailler à l'époque.
Mais Peter, est-ce que c'est une fatalité ? Enfin, je suppose que non. Je suppose qu'à la Confédération, vous avez une analyse et une position par rapport à ce qui paraît comme inévitable pour l'agriculture moderne. C'est utiliser de la main-d'œuvre et utiliser une main-d'œuvre qu'on va chercher très loin et faire en sorte qu'elle soit soumise. Enfin, il n'y a pas d'autre avenir envisageable pour une agriculture qui serait plus respectueuse des hommes. Je sais pas.
Il y a sûrement un autre avenir, mais cet avenir ne va pas venir tout seul. C'est un combat à mener qu'on n'a pas encore gagné, parce que si on a gagné en ce moment, peut-être au niveau des OMI, où il y a une vraie pression, parce qu'il y avait un vrai travail d'information qui était fait, on a bien avancé, mais il faut dire en même temps la pression de travailler au noir. Juste un petit exemple quand même qui s'est passé cette semaine, c'est un grand paysan de Berre, et vu qu'il est dans tous les journaux, on peut dire il s'appelle François Otta, c'est pas un secret. Il était arrêté mardi le 17 juin parce que depuis plus que 10 ans, il a importé des centaines de tonnes de tomates pour 50 centimes de l'Espagne. Il était vice-président, ils l'ont viré il y a une semaine, il était vice-président de la coopérative tomate de Berre et il faisait passer ses tomates par ses coopératives et ça coûtait 50 centimes, c'était vendu 1,30€ au moyen. Et évidemment, c'était des bonnes affaires. Ce monsieur, il est écroué maintenant. tant mieux, mais il faut savoir qu'en même temps, il y a 25 Marocains qui étaient arrêtés aussi parce qu'ils étaient illégaux. Ils risquent de perdre le travail, c'est sûr, et peut-être même être expulsés. Alors, tout ça, on n'a pas encore gagné le combat.
Le combat, ce serait aussi une autre agriculture.
Le combat, c'est que cette agriculture industrielle qu'on voit ici, moi, je suis paysan, on produit des légumes bio, mais je dis pas que tout doit être bio pour être bien. J'ai des copains paysans qui sont conventionnels, qui travaillent très bien, qui respectent complètement leurs ouvriers. Mais je pense cette concentration comme un paysan qui a 1000 hectares de pêche, comme un céréalier ou un riziculteur en Camargue qui touche 800 000 euros de subvention pour ses grandes surfaces qu'il a, c'est une concentration de l'argent et de pouvoir qui fait, je dirais presque automatiquement, que la tentation d'exploiter les autres, on succombe très facilement. Et vu que c'est le plus rentable, la main-d'œuvre, on peut économiser énormément d'argent avec la main-d'œuvre. Ben, si on ne met pas en question cette manière de produire, ce sera difficile à empêcher en même temps aussi exploiter la terre et exploiter les gens de cette manière-là.
Mais est-ce qu'il n'y a que les conditions de production, enfin j'essaye de comprendre, ces agriculteurs qui sont des agriculteurs industriels disent que à moins d'exploiter, enfin ils le disent pas comme ça mais on le constate, à moins d'exploiter à mort une main d'œuvre qui nécessairement apparaît être une main d'œuvre importée, comme l'autre importait ses tomates, on importe la force de travail. Est-ce qu'ils ne sont pas coincés pourquoi doivent-ils avoir ce niveau de compétitivité? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question qui touche au libre-échange et aux concurrences avec d'autres agriculteurs dans d'autres pays?
Tout à fait. D'abord, je veux dire, il y a même des gros paysans qui ne travaillent pas de cette manière-là. Il y a pas, je ne veux pas dire qu'automatiquement ceux qui ont plus que, je ne sais pas moi, 200 hectares, c'est des exploiteurs dégueulasses au niveau humain. Ça, ce n'est pas vrai. Il y en a, mais quand même, ce qui est vrai, que la concurrence, elle est énorme avec des bassins de production comme El Ejido en Espagne, où il y a 40 000 hectares de serres, et c'est la même situation. Les paysans là-bas, et ils font les thunes en faisant la pression sur les main-d'œuvre. C'est avec ça, c'est pas avec l'arrosage, ni avec l'engrais, ni avec les traitements, ni avec le plastique qui peuvent économiser toutes ces choses-là. Ils montent, ils sont de plus en plus chers, le gasoil, vous le savez très bien. Alors, s'ils veulent économiser, c'est uniquement avec la pression de la main-d'œuvre. Et dans la situation du marché actuel, où celui qui exploite d'une manière le plus brutale, le plus dégueulasse, ces gens, pour être le plus compétitif, c'est lui qui est 5 centimes moins cher ses tomates, tant qu'on accepte cette situation-là. Effectivement, la concurrence déloyale, elle existe partout, et nous, la Confédération Paysanne, nous sommes pour une protection. On est pour les produits locaux, on est pour une protection des choses qui sont produites là. Par contre, on n'est pas du tout pour une protection des céréales qui sont exportées et qui cassent après le marché dans le tiers-monde. Ça, c'est tout à fait autre chose, mais on est pour une protection du marché agricole, local et régional.
Merci Peter. Écoute, c'est fascinant. Je crois qu'on a entrevu que la situation, la jungle, du point de vue du droit, dans l'ouest sauvage du département des Bouches-du-Rhône, a des origines très lointaines, très compliquées. Et ce serait probablement une nouvelle émission qu'il faudrait consacrer à ce que viennent de témoigner Denis et Peter. Et on y pensera. Faites-nous savoir d'ailleurs si vous le souhaitez. Maintenant, on va passer à une des rubriques que l'on souhaite être une rubrique fixe de cette émission, le kiosque juridique. Alors, elle a été conçue pour être une rubrique de réponse à des questions qui nous seront posées par des questions précises qui nous seraient posées par les auditeurs et auxquelles on essaierait d'apporter des réponses également précises. On ne va pas faire des cours de droit à l'antenne. Seulement, voilà, on est à la première émission et par définition, on n'a pas de questions d'auditeurs. Alors, pour finalement introduire cette rubrique et faire comprendre notre souci de fournir aux auditeurs des indications pratiques, nous avons pensé vous présenter un panorama régional de du dispositif qui est en place pour l'accès, pour permettre aux étrangers d'accéder à leurs droits. Alors, pour nous présenter ce dispositif, on va le demander à Denis Natanelic, le même Denis que tout à l'heure, mais qui va changer de casquette, parce que Denis est à Espace Accueil aux étrangers, responsable de l'organisation de ce dispositif et de son fonctionnement en réseau. Donc Denis, si tu peux nous exposer ce qui se passe dans la région, où se trouvent les lieux d'accueil, comment on peut y accéder, à quoi ils servent et comment finalement, si on rencontre un étranger qui a des difficultés, je suppose, d'ordre plutôt administrative, enfin on va dire vis-à-vis de ses papiers, pour parler vite, comment on peut déjà lui donner le bon conseil d'aller à la bonne adresse?
Ok, je vais essayer d'être rapide. Voilà, donc l'accès aux droits des étrangers dans la région PACA, c'est aujourd'hui une bonne cinquantaine d'associations, avec au sein de ces associations, enfin pour la plupart c'est des associations, mais on a aussi quelques collectivités locales, qui sont habilités à recevoir les étrangers un peu partout sur le département des Bouches-du-Rhône et un peu partout dans les autres départements, avec deux missions. Une mission d'accueil de tous les étrangers, d'information et d'explication de la procédure, de toutes les procédures concernant le droit des étrangers. En sachant que le droit des étrangers est très 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 complexe aujourd'hui et que les étrangers ont nécessité d'avoir la meilleure information pour pouvoir effectuer la meilleure démarche vis-à-vis de leur statut. Donc ça, c'est une des premières démarches de ces points d'accueil pour les étrangers. La deuxième, c'est l'accompagnement vers le droit commun, parce que beaucoup de ces étrangers sont en situation de méconnaissance de leurs droits ou de difficultés d'accéder à ces droits qui sont des droits communs, donc des droits à la retraite, des droits à la sécurité sociale ou autres. Et souvent, ces droits ils ont une difficulté d'accéder à ces droits par rapport à leur statut. Donc, quand le statut vient en jeu, il y a nécessité d'avoir quelqu'un qui soit repéré, qui ait la connaissance juridique suffisante. Donc, au niveau d'Espace Accueil aux étrangers, nous développons depuis 5-6 ans maintenant plusieurs ressources pour répondre à tout ça. Donc nous avons mis en place des ateliers de formation un peu partout sur la région. Nous avons mis en place dans déjà deux départements, et c'est en cours dans les deux autres principaux du département, un travail en réseau avec une animation de réseau de ces acteurs. Et nous proposons aussi des outils d'évaluation pour tous ces professionnels qui travaillent dans ces associations. Alors, tous ces professionnels sont aujourd'hui financés par les pouvoirs publics, par l'État, par l'ACCE, qui est l'Agence de cohésion sociale à l'égalité des chances, mais aussi par les politiques de la ville, les politiques de quartier ou autres qui accompagnent ces associations ou ces collectivités. Et pour savoir où se renseigner, aujourd'hui, nous avons mis en ligne sur le site d'Espace, www.espace.so, dans la rubrique adresse utile, l'ensemble des coordonnées de ces personnes avec les lieux d'accueil, les personnes ressources, les téléphones, les horaires de permanence, ce qui permet aujourd'hui à tout étranger qui est dans la région PACA et qui entend aujourd'hui ce message de pouvoir se renseigner soit directement en allant sur ce site, soit en essayant de trouver un partenaire, un professionnel qui puisse avoir accès à cette information internet et pouvoir se rendre dans ces lieux de proximité. Sachant que ces lieux sont gratuits, contrairement à beaucoup de services qui sont proposés aujourd'hui aux étrangers. Voilà.
Donc Denis, si on veut résumer l'information, il y a dans cette région des permanences régulières tenues par des gens compétents, et pour connaître l'adresse, le plus simple, parce qu'on ne va pas en faire évidemment la liste à l'antenne, il y en a dans chacun des départements de la région, le plus simple est de se reporter au site d'Espace.
Tout à fait. Sur ce département, comme on parle des Bouches-du-Rhône et de l'action du Côte des Traces, nous avons une quarantaine de lieux d'accueil, de proximité, qui sont donc dans ce fameux site adresse utile, accueil du plan départemental. Et si vous choisissez, par exemple, pour la question des saisonniers, si vous allez sur une des zones agricoles du département, vous allez trouver une association avec un lieu, avec une personne référente, avec des horaires de permanence. Et vous pouvez, ou les étrangers ou les personnes qui ont contact avec ces étrangers peuvent orienter ces personnes sur ce lieu où ils auront une information juridique de qualité et un accompagnement. Et notamment, pour revenir à la question des saisonniers agricoles et du Côte des Traces, nous travaillons en lien avec 6 ou 7 points d'appui, parce qu'on les appelle les points d'appui dans les Bouches-du-Rhône. Le Côte des Traces, les points d'appui et le groupe d'avocats étrangers travaillent en concertation pour l'accompagnement des saisonniers agricoles étrangers, dans la mesure où le premier accueil de ces étrangers, c'est souvent dans ces lieux d'accueil de proximité, donc où les permanences sont faites même en soirée, voire le dimanche pour certains lieux, pour s'adapter à la spécificité de ces travailleurs saisonniers.
Merci Denis. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous serons amenés à revenir aussi également dans les émissions suivantes. Et en attendant la dernière chronique de cette émission, une petite virgule musicale. Voilà, c'était la virgule, et après la virgule, la chronique. Alors, je ne vais pas la présenter en général. Nous avons pensé qu'il était bien, pour chaque numéro de cette émission, de donner la parole à un chroniqueur, une chroniqueuse, sur un sujet qui est relativement libre, et la parole est évidemment absolument libre. Alors, pour cette première chronique, nous avons un texte qui est écrit par François Malliet, qui va nous être dit par Nicolas Aretz. Et François et Nicolas sont des membres de CQFD. Voilà, Nicolas, c'est à toi.
Bonjour. Alors, je vous le dis tout de go, vive la gendarmerie. Et oui, vous avez bien entendu, vive la gendarmerie. Attention, pas celle du Var, hein. Qui laisse une chance et surtout 3 balles dans le dos aux gitans menottés en train de s'enfuir à toutes jambes. Non, je dis vive la gendarmerie, mais celle des Bouches-du-Rhône. Figurez-vous qu'après 6 mois d'enquête épuisante, nos vaillants Pandore ont coincé un voyou de la pire espèce. Une racaille qu'il était grand temps de nettoyer au Karcher. J'ai nommé François Autat, 70 ans, un des plus gros agriculteurs empoisonneurs de la zone de Berre-l'Étang. Où il produit des tomates soi-disant de Provence. Soi-disant, car selon l'intrépide maréchaussée, ce pécor revendait sur le marché d'intérêt national de Marseille, ainsi que dans les centrales d'achat des grandes surfaces, des tomates garanties Garrigue et Cigale, mais achetées 2 fois moins cher en Espagne. Le plus drôle, c'est que cet escroc est une ancienne figure du syndicalisme agricole local, des plus progressistes, vous vous en doutez. Ancienne figure, donc, de ce syndicalisme qui tonitruait contre l'importation de tomates produites au-delà des Pyrénées. Selon des sources proches de l'enquête, ce petit trafic durait depuis une dizaine d'années et porterait sur des centaines de tonnes de légumes. De quoi repartir du marché le portefeuille bien garni. Le 17 juin dernier, donc, notre fière gendarmerie accueillit François Autat sur son exploitation agricole avant de le mettre à l'ombre et en examen pour tromperie, abus de biens sociaux, ainsi que pour travail dissimulé et aide au séjour irrégulier. Car ce cher paysan au grand cœur international faisait bien sûr trimer des travailleurs au noir, ainsi que des saisonniers sans papier. N'écoutant que leur courage, et aussi un peu les directives du ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale, qui s'auto-congratule dernièrement de ses excellents chiffres de reconduite à la frontière, nos 150 zélés en armes ont aussi arrêté 25 ouvriers non déclarés que cette fripouille de François Autat exploitait et logeait à la dure sur son exploitation. Dans le lot, on compte des Marocains en situation irrégulière. Pour une fois que des militaires se fendent d'une bonne action, L'opération Calabacine, courgette en espagnol, commence à sentir le vinaigre. 9 des étrangers sans papier qui dormaient dans les serres gagnent au passage une procédure de reconduite à la frontière. Ils se sont fait essorer pendant des mois et des années par un patron voyou, et le jour où la cavalerie vient les libérer, elle les colle en centre de rétention. Avec en lieu et place d'une carte de séjour, pourtant bien méritée après tant de labeur, une procédure d'expulsion. Bravo. En attendant le procès du sieur Ota, nous lui laisserons bien sûr le bénéfice du doute. Quant aux gendarmes, il ne reste plus qu'à plaider l'irresponsabilité, comme d'habitude.
Eh bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je ne sais pas si le temps a passé vite, mais j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Et en attendant de vous quitter définitivement, je souhaiterais rappeler quelques informations utiles. D'abord, concernant le Code des Traces, on trouvera sur le site web une information assez riche. On y trouvera des communiqués de presse, on y trouvera une revue de presse, on y trouvera la charte du Code des Traces, etc. etc. Alors, l'adresse de ce site, je le répète, www.codetraces.org. Code des Traces, c'est C-O-D-E-T-R-A-S. Concernant l'émission, je vous rappelle que le répondeur de l'émission est au numéro 04 91 64 43 16. Vous pouvez aussi trouver de l'info sur cette émission naissante sur le site de Espace Accueil aux étrangers. Alors, je le nomme de nouveau, www.espace, E-S-P-A-C-E et non pas un petit blanc, asso.fr. Et naturellement, sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Voilà, il nous reste à conclure et nous allons nous quitter en remerciant évidemment nos invités. Denis Natanelic, merci deux fois. Peter Gerber, merci deux fois. Nicolas Aretz, merci deux fois, puisqu'on remercie aussi François Malier qui a été l'auteur. N'oubliez pas de vous habituer à Bienvenue chez vous, une nouvelle émission qui commencera à un rythme mensuel à partir de l'automne 2008. Au revoir.